des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Félix, on parle souvent de journalisme, toi et moi. Et là, j'ai une question pour toi. C'est au journaliste que je parle. Et d'ailleurs, à JE, vous nous avez montré justement ce qui se passait dans les hôpitaux pendant la pandémie. Un long reportage. Est-ce qu'on aurait dû, justement, au gouvernement, laisser rentrer plus facilement les caméras dans les hôpitaux pour que les gens voient ce que ça donne, la COVID? Des gens intubés, des gens qui ont de la difficulté à respirer, qui luttent pour leur survie. Peut-être que le message serait passé mieux. T'sais. Comme disait Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir.
Ouais, bien sûr que oui. C'est pour ça que les médias, d'ailleurs, il y a un peu moins d'un an, là, ont signé une lettre commune là, dans laquelle ils demandaient à ce que les accès aux hôpitaux soient plus faciles à obtenir d'abord. Parce que l'essence même aussi, tu sais, du journalisme, je dis toujours que dans le journalisme, il y a un autre mot qui est invisible, mais qui se révèle si on frotte un peu, c'est l'accès. Mmh. Et si on avait eu un accès plus tôt aussi aux hôpitaux, on aurait peut-être pour quelques personnes fait une différence parce qu'on aurait montré justement ces cas, entre autres de COVID longue, de jeunes, pères de famille qui sont là intubés aux soins intensifs et puis qui, pour X nombre de raisons ou certaines croyances, n'avaient pas voulu se faire vacciner parce que c'est dans ça qu'on est maintenant, puis on en a vu quelques témoignages. Donc oui, et ça me permet, cette question-là me permet de déplorer qu'au Québec, il n'y a rien de facile pour les accès. Il n'y a rien de facile. Je te ferai remarquer qu'on a une loi d'accès à l'information désuète. Je te ferai remarquer que la Coalition Avenir Québec promettait d'être le gouvernement le plus transparent d'histoire. Je te ferai remarquer que d'autres gouvernements avant ont fait la même promesse. Et je te ferai remarquer aussi que quand on demande d'avoir des chiffres, des copies de certaines lettres d'entente, on reçoit des documents plus souvent qu'autrement caviardés. C'est beaucoup plus limpide et transparent de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, où l'accès à l'information est beaucoup plus au cœur de la vie démocratique qu'ici. Voilà.
Mais c'est bien de le rappeler que la CAQ avait promis ça, là, d'être le gouvernement le plus transparent de l'histoire. Tu fais bien de le rappeler. Écoute, Félix, tu veux nous parler d'un juge drôle ou d'un drôle de juge, mais en tout cas, lui, il se pense aux soirées de l'impro, là.
Oui, c'est le juge Gérard Dugré de la Cour supérieure du Québec qui fait face à plusieurs plaintes déposées contre lui. Pourquoi? Comportement inapproprié, nous apprend Jules Richer du bureau d'enquête dans le Journal de Montréal. Quand on parle de comportement inapproprié dans son cas, c'est des blagues douteuses, c'est des commentaires déplacés. Et on a obtenu, et Jules Richer, c'est drôle, c'est pas drôle en même temps, là, obtenu les transcriptions des causes au cours desquelles le juge Dugré a commis des écarts de langage. On en a tiré plusieurs extraits dans le journal ce matin, si vous voulez aller voir ça. Et puis là, bon, avant d'arriver dans les exemples, je veux juste te dire que dans son cas, il y a un comité d'enquête du Conseil canadien de la magistrature qui se penche sur 7 dossiers disciplinaires ouverts contre lui. Et je veux juste te dire aussi qu'un juge, ça gagne 300 000 $ par année. C'est représenté par un avocat dont les frais sont assumés par les contribuables. Et puis, écoute, des juges, c'est assez inatteignable, là. Probablement que dans son cas, ce sera une réprimande ou quelque chose. On verra bien. En tout cas,
Je me fais l'avocat du diable, mettons, OK, là, pour les fins de la conversation. Tu sais, ça peut être extrêmement angoissant de se retrouver devant un juge en cour de justice. T'sais, c'est quand même lourd et tout ça. Est-ce qu'il voulait peut-être mettre les gens un peu plus à l'aise en ayant des propos comme ça?
Je sais pas si la citation que je vais te faire, là, que je vais te dérouler là devant dans une cause de droit familial, c'est de nature à rendre les deux parties disons un peu moins stressées. Il parle là de quelqu'un là qu'il veut déclarer Enfin, il veut peut-être l'accuser d'outrage au tribunal parce que, okay, tu sais, devant la cour, ça va pas toujours bien. Des fois, on s'obstine. Bon, alors, il parle des cellules, puis il dit, en parlant des cellules, on en a deux sortes. Une pour les dames, où il y a des petites souris qu'on nourrit pas. Puis il y en a une pour les hommes, où il y a des rats, puis on les nourrit pas, puis ils sont affamés. Alors, vous allez être dans la cellule, vous. Vous pourrez vous amener réfléchir un peu là-bas en cellule, c'est ce qu'il dit. Sa menace n'est pas mise à exécution, mais tu sais, c'est pas un langage rassurant quand ça te vient d'un juge. Une autre fois, là c'est un peu plus léger comme ton. Bon, il fredonnait là la chanson Marianne de Michel Delpech. Il dit qu'il écoutait ça en s'en venant au travail, là, dit-il. En fait, la chanson exacte, c'est que Marianne était jolie. Là, à un moment donné, il réfère à Tout le monde en parle, encore dans une cause de droit familial. Il vient d'entendre un témoignage super difficile sur des enfants, parce que en droit familial, il y a souvent au cœur du litige des enfants. Et là, l'intervenant qui est devant lui dit une dernière question, monsieur le juge. Le juge dit, la dernière question. L'intervenant dit, oui, c'est vraiment la dernière, monsieur le juge. Et là, le juge dit, mais rappelez-vous, vous n'écoutez pas Tout le monde en parle, vous, quand les projecteurs commencent à tourner. Et puis, ça s'appelle la question qui suit. Tu sais,
c'est déplacé.
Ça me heurte pas tant, mais c'est l'accumulation. Tu sais, des fois, on a des preuves par accumulation qui se font. Tu sais, bon, il y a une définition d'ailleurs de l'alcoolisme dans une autre cause là qui est un peu bizarre. Il est un peu sarcastique par endroit. Bref, les avocats sont assez perplexes quand ils plaident devant lui. Il y a une avocate qui s'appelle Miele, du nom, pas du nom de la compagnie d'électroménager, mais c'est aussi le nom d'une compagnie d'électroménager. Okay. Et le juge dit à l'avocate, pensez-vous qu'on peut avoir une réduction sur les électros? L'avocate dit, sur quoi? Il dit, sur les électroménagers! L'avocate, elle comprend pas, tu sais, du tout. Et là, il fait un lien avec son nom, tu sais, mais elle est en tout cas, bref, tout ça. Monsieur le juge, là, il ne siège pas en attendant que...
C'est ça, ils vont prendre une décision à son sujet, et là, bien sûr, il fait pas face à une destitution. Là, on parle d'une amende.
Ultimement, le conseil de la magistrature pourrait décider de le destituer, mais c'est très, 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 très rare dans l'histoire du Canada que ça arrive et certainement pas pour ce genre de propos.
En tout cas, il se trouve très comique. Encore des coups de feu dans la rivière des Prairies. Là, c'est
ben oui, je voulais... Ben oui, c'est ça. Je voulais juste te le dire en se laissant là que dans la nuit là d'hier à aujourd'hui là près d'une heure du matin, il y a deux résidences, des fameux jumelés là sur la rue Roland Germain, qui ont été ciblés par des coups de feu à partir. Encore une fois, on le voit souvent là à partir d'un véhicule en mouvement. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont vu les impacts de balles sur les résidences. Ils ont trouvé des douilles, mais ils n'ont pas trouvé de victimes et ils n'ont pas trouvé de suspects.
Écoute, puis il y a même une attaque au marteau dans une station de métro à Côte-Vertu, station Côte-Vertu, qu'un gars qui a fait ça à coups de marteau sur la station où était le préposé à l'intérieur, puis le gars, le changeur, a eu peur en maudit. C'est rock'n'roll. Et tu veux nous parler du prochain patron de la SQ? Est-ce que ça se précipite pour lever la main en disant moi?
Ça se précipite. Et à chaque fois, ça se précipite parce que c'est un des postes les plus prestigieux du Québec.
Est-ce que tu es à Rivière-des-Prairies, justement, quand tu nous parles, là?
Non, ouais, c'est ça, hein? On dirait que quelqu'un s'en vient me voir toute sirène hurlante. Là, il faut remplacer Martin Prudhomme, hein?
Oui.
Alors, qui va remplacer Martin Prudhomme? Je vais juste conseiller d'aller peut-être reprendre cet article-là si vous voulez être au courant de ce qui se passe, le relire, là. Il est paru ce week-end là sur le site du Journal de Montréal. Allez relire ça parce que moi je peux on n'aura pas le temps dans cette chronique-là, Richard, de passer tous les candidats là, mais selon nos informations, c'est en train de se jouer entre trois personnes.
Ah oui.
Il y a trois personnes au fil d'arrivée là. En tout cas, il nous semble. Il y a Frédéric Gaudreau qui est actuellement le commissaire en chef là à l'unité permanente anticorruption. Il semble que il soit très 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 bien vu par le ministère de la sécurité publique et très apprécié. Alors Frédéric Gaudreau et dans le peloton de tête. Et faut dire aussi qu'il y a Patrick Bélanger qui lui est déjà à la Sûreté du Québec. Il est responsable de la surveillance du territoire, un policier qui a beaucoup d'expérience, qui n'a pas caché d'ailleurs là ses intérêts pour devenir le prochain patron de la SQ. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il a les états de service pour pouvoir prétendre au poste. Et il y a Joanne Beausoleil. Joanne Beausoleil est déjà là. C'est l'ancienne sous-ministre, c'est une civile, ancienne sous-ministre aux prisons là, et elle est directrice intérimaire présentement, Madame Beausoleil. Et elle aussi, sa gestion, ça c'est intéressant que je le mentionne, parce que les civils qui sont greffés à la police, des fois la greffe justement ne prend pas. Dans son cas, la greffe prend. Ses qualités de gestionnaire sont très appréciées. Alors, moi, je te gage un vieux 2 là, que c'est entre ces trois-là.
OK, est-ce qu'on devrait le savoir bientôt? Est-ce que ça se joue cette semaine, ça?
Ou... Oui. Oui, non, en fait, oui, non, je te dis oui, non, hein, c'est clair. Hein. Mais regarde comment ça va fonctionner. Je crois que la date là, limite pour la fin des mises en candidature, là, l'appel de candidature, là, je crois que c'est le 18 octobre, si ma mémoire est fidèle. Après ça, le comité de sélection va regarder ces candidatures-là pendant une semaine ou deux, va soumettre son choix à la ministre de la Sécurité publique. Ensuite, la ministre de la Sécurité publique va avertir les oppositions à Québec de son choix. Ensuite, les oppositions à Québec vont être convoquées pour rencontrer le candidat qui a été choisi par le MSP. Et, rappelle-toi maintenant, le DPCP, le directeur de la SQ, commissaire de l'UPAC, son homme aux deux tiers des votes par l'Assemblée nationale du Québec, c'était le projet de loi 1 de la CAQ. Alors, on va probablement se prononcer au final sur la candidature à la dernière semaine en décembre là où ça siège à l'Assemblée à Québec. Donc on saura si le candidat est accepté avant, mais il officialisera son entrée en fonction lorsque l'Assemblée nationale aura décidé de l'appuyer ou non, mais ça devrait normalement se bien.
C'est ça, c'est une nouvelle règle là, que ce soit décidé par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Félix Séguin, bonne journée, on se reparle demain.
Super, merci. Salut.